l'actu des oubliés. Saison 6. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, pour notre épisode 4 intitulé « La COP30 est une mascarade », nous partons au Brésil. Le mardi 11 novembre, les locaux qui hébergent la COP30 qui se tient à Belém sont envahis par une manifestation menée par différentes communautés des peuples originaires du fleuve Tapajós. Dans un contexte où la barrière symbolique des 1,5 degré a été officiellement franchie, la COP s'ouvre aux portes d'une Amazonie que l'on connaît comme le poumon vert de la planète. La région qui représente 5% de la surface du globe est pourtant si vulnérable. Selon les recherches, la combinaison de plusieurs facteurs tels que le réchauffement global, la déforestation et la baisse de la pluviométrie pourrait mener à transformer la plus grande forêt tropicale au monde en gigantesque savane. Et peu avant l'ouverture de la COP, la sentence tombe. Le point de non-retour serait peut-être déjà atteint. Forcément, la COP30 est donc hautement symbolique. On l'appelle la COP des COP. Des objectifs qui se veulent audacieux sont mis sur la table. Et même Trump s'érige en parfait méchant en annonçant que les États-Unis n'y participeront pas. La mascotte de cette COP30 reflète à elle seule l'entourloupe. Curupira, esprit protecteur issu de la culture Tupi-Guarani, a en effet été choisi par le gouvernement brésilien pour être l'égérie de l'édition de cette COP30. À l'entrée du bâtiment, nombre de délégués se prennent en photo avec cette grande stature couverte de feuilles et aux cheveux enflammés aux allures de personnages Walt Disney. La principale occupation de Curupira est habituellement d'en chasser ceux et celles qui ne la respectent pas et de dérouter les envahisseurs, d'où ses pieds qu'il porte à l'envers. Chuyachaki au Pérou, Sachamama en Bolivie, Madre Monte en Colombie ou encore Maki Lili en Guyane, la figure tutélaire de Curupira existe a priori dans toutes les cultures amazoniennes. C'est en partie pourquoi il a été choisi. Annonce officielle du gouvernement brésilien en juillet dernier pour accompagner un visuel en image de synthèse d'un petit garçon particulièrement accueillant aux grands yeux et aux grands sourires, Curupira reflète l'engagement de la présidence brésilienne à consolider les actions visant à réduire les émissions de gaz à l'origine du réchauffement climatique. Curupira s'affiche alors partout, jusque sur le t-shirt de la première dame du pays. À l'ouverture de l'événement, les organisations des peuples originaires répondent par ce texte. Curupira n'est pas une mascotte, c'est un gardien qui protège forêts et animaux, qui fait partie de la spiritualité des peuples originaires et de leur cosmovision. Il punit celui qui envahit, qui détruit, qui exploite la mère nature. Celui qui connaît ces histoires le sait. Jamais il ne serait à la porte de la COP30 pour accueillir des malfaiteurs. Curupira ne fait pas de négoce avec les compagnies pétrolières. Il ne fait pas de selfie avec le bœuf et le soja qui détruisent l'Amazonie. Il ne collabore pas avec celui qui tue, qui contamine les fleuves, qui expulse les communautés, qui fait de l'argent grâce aux incendies ou transforme la forêt en marché. Ceux-là, il les égare dans la forêt. La planète vit une crise profonde. La COP30 devrait renforcer ceux qui prennent soin de la forêt. Or, elle n'est qu'une vitrine pour le commerce. Vos propositions sont des mensonges qui ne font pas face à la crise. Au contraire, elles amplifient les inégalités et les injustices. Elles abandonnent les peuples ancestraux, véritables gardiens pourtant si vulnérables. Comme le dit Nego Bispo, vous aspirez la vie de la terre et vous expropriez la terre de ceux qui y vivent. Nous, nous exigeons le zéro déboisement. Nous exigeons la démarcation immédiate des territoires. Nous exigeons qu'il n'y ait plus une seule ouverture de puits de pétrole en Amazonie et la protection des défenseuses de l'environnement. Sans mobilisation populaire, il n'y a pas de changement réel. Curupira ne se vend pas. Curupira, c'est la résistance. Le texte est accompagné d'un portrait d'un tout autre Curupira, plus âgé que le petit garçon de la COP, tatoué, les pieds à l'envers, une massue à la main, un perroquet sur son autre bras. Ses yeux sont maquillés d'un bandeau rouge, ses cheveux sont des flammes, et il clame « Je ne suis pas une mascotte ». Derrière lui, brûle une pelleteuse estampillée COP30. Car la COP n'est effectivement qu'une vitrine autour de laquelle se signent nombre d'accords d'exploitation des ressources. En tout, plus de 1600 lobbyistes et représentants des industries fossiles sont présents à la COP, contre seulement 900 délégués des peuples indigènes. Pour les entreprises, la présence à la COP permet notamment d'accéder à des espaces de négociation avec des chefs d'État ou d'autres chefs d'entreprise, bien que la délégation française qui a invité Total Energy nie cet aspect pourtant avéré de la COP. Et alors que la ministre de la Transition écologique prône l'objectif de sortie des énergies fossiles, Total, qui émet à lui seul autant de gaz à effet de serre que l'ensemble des personnes vivant sur le territoire français, a lui promis d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par an, notamment en Amazonie. Alors qu'elle produit déjà 180 000 barils par jour dans le pays, elle signe en 2023 un contrat de partage de production avec Petrobras. Le 11 novembre dernier, elle annonce un nouveau contrat avec le Guyana et enfin promet d'extraire du pétrole au Suriname à partir de 2028. Côté français, on retrouve également EDF, Engie et Vinci, trois groupes qui ont co-construit des barrages hydroélectriques ou d'autres infrastructures en Amazonie. Mediapart a récemment publié une étude démontrant de quelle manière de nombreuses entreprises françaises font leur beurre sur la déforestation et l'accaparement des terres. L'enquête pointe notamment Engie pour son implication dans le méga-barrage à Giro, où elle fut mise en cause pour du travail forcé. Alessandra Corap Munduruku, militante issue des peuples Munduruku dans la région du fleuve Tapajós, est reconnue internationalement puisqu'elle a remporté le prix Goldman Environnement en 2023. Elle explique à Oui Demain.
Avant même que la COP ne commence, il y a déjà des accords. Pétrole, exploitation minière, y compris des décrets approuvés par le président brésilien lui-même, comme celui qui privatise nos fleuves pour transporter du soja vers les États-Unis, la Chine, l'Europe.
Le président Lula a en effet signé le décret 12600 qui privatise plusieurs fleuves du pays, le Tapajós, le Madeira et le Tocantins. Objectif, faciliter le transport et l'exportation de combustibles et de produits agricoles. Le projet prévoit de céder plus de 3000 km de voies navigables de l'Amazonie à des initiatives privées, servant ainsi les intérêts de l'agro-industrie et d'autres secteurs économiques. Concrètement, cela signifie des modifications structurelles des berges de ces fleuves, l'artificialisation et la bétonisation via l'installation de ports et d'autres infrastructures, qui, dans un second temps, permettront le développement d'autres projets tels que des mines ou des méga-fermes. Le projet menace plusieurs dizaines de communautés autochtones, des communautés non originaires installées en bord de fleuve et des communautés quilombolas, c'est-à-dire historiquement fondées par des esclaves en fuite et qui portent leurs propres revendications foncières et sociales. Ce simple projet résume à lui seul toutes les contradictions du gouvernement Lula en matière environnementale, car des membres du gouvernement, il y en a aussi à l'extérieur de la COP, au sommet des peuples. À l'initiative d'un millier d'organisations environnementales, autochtones et de lutte sociale qui s'y préparent depuis 2 ans, un grand village s'est installé au cœur de Belém, dans l'université. La vraie zone de négociation, elle est ici, s'exclame Sonia Guajajara, toute première ministre des peuples autochtones du Brésil. C'est là qu'on discute et qu'on imagine des solutions quotidiennes, concrètes et populaires. Une affiche clame « Nous n'allons pas attendre que des solutions viennent d'en haut. Ce ne sont pas les experts qui sauveront la planète ». L'objectif est décrit dans le manifeste, renforcer la mobilisation populaire sur des bases antipatriarcales, anticapitalistes et anticoloniales pour avancer vers un avenir où le bien-être prime. Il dénonce que les fausses solutions climatiques servent d'instrument pour amplifier les inégalités sociales et qu'elles renforcent le fait que le désastre climatique s'abatte avec plus de force sur celles et ceux qui y ont le moins contribué. À Belém, où le réchauffement atteint presque 2 degrés, les infrastructures nouvelles construites pour la COP ont d'ailleurs été concentrées dans les quartiers privilégiés. Les quartiers populaires, eux, jonglent toujours entre inondations et fournaises et demeurent les grands oubliés. Pourtant, des solutions réelles existent, clame le manifeste. La société civile doit être au premier plan. Les revendications sont la fin des énergies fossiles, la déforestation zéro, le droit à la terre et l'accès aux ressources, la souveraineté alimentaire basée sur l'agroécologie et la production locale, ainsi que la reconnaissance du vivant comme sujet à des droits. Le sommet des peuples souligne la nécessité que la transition soit équilibrée financièrement, avec une participation accrue des plus riches, et la responsabilisation des sociétés transnationales de l'agro-industrie, des mines, du secteur de l'énergie et du BTP pour les dommages et menaces qu'elles font peser sur les populations. Le texte est profondément intersectionnel, en exigeant des politiques publiques engagées pour l'éradication du racisme structurel et des violences contre les femmes. Dans le village, on voit notamment une banderole bariolée où des pièces de tissu sont cousues pour former les mots « Lula, diriger, c'est avoir le courage de dire non au pétrole en Amazonie ». Directement visé, un projet de forage pétrolier dans la baie de l'Amazone validé par le président brésilien tout récemment. Dans Reporter, André Marajo explique. Certes, Lula a amélioré la question de notre sécurité et de la déforestation. Mais pour nous, la question de la privatisation des voies navigables est aussi importante, sans compter celle de l'exploitation pétrolière au large de la forêt ou du Ferro Grau, projet de ligne de chemin de fer traversant l'Amazonie du nord au sud sur plus de 900 km. Le village réunit les luttes environnementales à l'échelle du continent, des luttes qui tendent à se fédérer. Partie en octobre d'Orellana en Équateur, une flottille a notamment descendu le fleuve Amazon pour venir porter les revendications de sortie des énergies fossiles et de justice climatique à chaque escale. André Marajo poursuit. Nous sommes les personnes qui devraient réellement être en train de discuter du climat. Notre région du fleuve Tapajós a été vendue d'un trait de plume. Or, nous subissons déjà un impact très important de l'exploitation minière qui contamine l'eau. L'eau, c'est la vie. Et sans eau, nous ne survivons pas. L'année dernière, la ville de Santarém enregistrait la pire qualité de l'air au monde à cause de la fumée et de la déforestation causée par l'avancée de l'agro-industrie. Plusieurs de nos leaders ont déjà été menacés par l'agronégoce. Estado de alerta, fique viva, se prepare. São dias e noites de amor e guerra. Fique viva, fique viva. A linha de fronteira se rompeu. Bala tocada balançada, essa bala procura cor, procura amor. Bala tocada balançada, essa bala procura cor, procura amor. Car l'agronégoce est à l'Amazonie ce que le réchauffement des eaux océaniques est à la banquise. Le système économique qui pilote la production alimentaire au Brésil comme ailleurs force les exploitants à mettre leur production future en garantie et à s'endetter. Conséquence, il faut perpétuellement augmenter la production pour survivre, ce qui pousse à la déforestation. En Amazonie, cette déforestation se fait en mettant le feu à la forêt, aboutissant aux vagues d'incendies que l'on a connues ces dernières années. Les 13 et 14 novembre se tient au cœur du village un tribunal des peuples, procès symbolique contre la monoculture du soja en territoire guarani. On y dénonce l'usage démesuré de pesticides lâchés par drone jusque sur les villages, l'accaparement des terres et la vague d'arrestations racistes ayant conduit à l'assassinat de deux jeunes Guarani début 2025. Bonifacia Herrero Taqua Alves, coordinatrice régionale de la Comissão Guarani Ivirupa, qui réclame la démarcation des terres Guarani du Paraná, raconte à Mediapart.
Ce tribunal des peuples est pour moi important, car je crois que lorsque l'on parle, cela résout les problèmes. J'aimerais vraiment que mon village soit démarqué, pour que nous ne soyons plus atteints par les pesticides. Et je me demande, est-ce que je verrai cela avant de mourir ?
Autre projet géant autorisé par Lula, le Ferro Grau, littéralement le Ferro Grain. Un projet ferroviaire géant à travers l'Amazonie pour favoriser le développement de l'agro-industrie et expédier à moindre coût ses productions vers le nord du Brésil et l'Europe. On estime que son développement entraînerait la déforestation de 5 millions d'hectares, affectant 6 territoires indigènes et potentiellement des peuples en isolement volontaire. Or, le territoire Munduruku est déjà, depuis le début de l'année, l'une des zones les plus déforestées d'Amazonie. Il doit aussi faire face à l'orpaillage illégal. Alessandra Corap a ainsi mené une étude sur ces communautés. 100% des femmes testées et 100% des enfants testés sont contaminés au mercure, le fléau qui accompagne la recherche d'or. Pour récolter 1 kg du métal précieux, 3 kg de mercure sont nécessaires, bien souvent rejetés dans les rivières. Eau, poissons, terre et tout ce qui pousse sont alors mortellement pollués. Elle confie à Mediapart.
C'est encore plus grave que ce que l'on pensait. L'orpaillage illégal n'amène pas que les gangs, la violence et les drogues. Il apporte aussi les maladies, jusque dans l'utérus et le lait maternel.
Les orpailleurs s'installent au cœur de la forêt et détruisent tout sur plusieurs hectares pour éventrer la terre. Et même lorsqu'ils partent, les routes ouvertes demeurent et sont réutilisées par les trafiquants de bois, par les éleveurs qui défrichent et brûlent pour voler des terres, puis par les grands propriétaires terriens. C'est pourtant grâce à des centaines d'opérations, menées à la fois par des organisations écologistes, par des instituts tels que l'Institut Chico Mendes de la protection de la biodiversité, voire par des communautés qui s'auto-organisent, comme chez les Yanomami, que la chasse aux orpailleurs progresse. Chaque jour, du matériel utilisé par les orpailleurs, pelleteuses, pick-up, motos, pompes à eau, partent en fumée, rendant plus difficile l'une des activités les plus mortifères pour la forêt. Et les résultats sont là. L'orpaillage a diminué de moitié en territoire autochtone et en 2025, la déforestation atteint son niveau le plus bas depuis 11 ans.
Palavrões, enchentes e ribeirões. Viajo nas amplidões como Zé Ramalho, na peleja do diabo. Como dono do céu, como dono do céu. Quanto vale o seu papel?
En réalité, la lutte incessante des peuples indigènes paye ces dernières années. Il y a 2 ans, la Cour suprême brésilienne annulait une loi de l'agro-industrie qui menaçait de réduire la protection des terres autochtones et d'empêcher toute reconnaissance de nouvelles réserves. L'adoption de cette loi, nommée cadre temporel, aurait acté le vol de millions de kilomètres carrés de terres originaires, l'expulsion de centaines de milliers de personnes de chez elles et le potentiel anéantissement de plusieurs dizaines de peuples non contactés. La question était de savoir si les territoires non officiellement reconnus comme indigènes en 1988, lors de la promulgation de la constitution actuelle, pouvaient être considérés comme territoires indigènes aujourd'hui. Après une longue lutte de 6 années au Brésil et à l'international, la Cour suprême a donc répondu oui, éliminant de fait la menace que faisait peser sur ces terres l'agro-industrie. Suite à cette décision, l'organisation Guarani Atiguaçu avait exulté.
Pour nous, il s'agit d'un important moment de bataille et de célébration. Nous pleurons de joie. Aujourd'hui, nous allons chanter la vie et danser la joie. La Cour suprême a montré qu'elle se soucie de nos vies et qu'elle est contre le génocide. Elle a écouté le cri des peuples autochtones du Brésil. Nous allons maintenant poursuivre notre lutte pour la démarcation de nos terres avec la même détermination et la même force que par le passé.
La démarcation des terres autochtones est en effet majeure dans le Brésil contemporain. Il s'agit du processus administratif pour reconnaître et délimiter les territoires indigènes. L'idée est bien entendu de les protéger légalement contre les intrusions des orpailleurs, trafiquants de bois et autres voleurs de terres qui s'arrogent les terres amazoniennes, considérées depuis la conquête comme des terres vierges et libres. Car l'histoire du bassin amazonien a fort à voir avec l'idée d'Eldorado et de terres vierges que l'on peut exploiter à sa guise. Comme le démontre l'auteur François-Michel Letourneau, il faut considérer l'Amazonie comme une pluralité d'écosystèmes très divers. Selon lui, il convient de rajouter de la géographie et de la régionalisation dans tout ce qu'on pense sur les Amazonies. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on considérait que la région n'avait été habitée que tardivement, par des groupes de chasseurs-cueilleurs incapables de fonder des civilisations complexes. Or, les Amazonies sont peuplées d'humains depuis au moins 13 000 ans avant Jésus-Christ, et la trace de vastes cités subsiste encore. On estime désormais que 5 à 10 millions de personnes vivaient dans la forêt amazonienne en 1492. L'archéologie révèle même début 2024 la trace d'une ville de 300 km² fondée il y a plus de 2000 ans au cœur de la jungle. Autour d'elle, un réseau routier s'étendant sur des dizaines de kilomètres reliait plusieurs centres urbains, de vastes zones agricoles et un réseau hydraulique s'harmonisant avec les cours d'eau naturels. Stéphane Rostin, l'un des archéologues qui fouille le site depuis 20 ans, déclare sur le site de la Sorbonne
« Dès les premiers temps du contact avec l'Amazonie, les Européens se sont forgés une opinion dépréciative des civilisations de la forêt, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Les autochtones ont ainsi été considérés comme des tribus semi-nomades à cause de l'absence de monuments de pierre, matière première rare en Amazonie. En réalité, la forêt de pluie a connu des manifestations sociopolitiques variées, dont plusieurs ont pu coexister au sein d'une même région. »
Les jungles amazoniennes sont en fait façonnées avec l'humain, au même titre que toutes les autres formes de vie qui la composent. Elle est une preuve vivante que des sociétés sédentaires relativement peuplées ont co-construit une ingénierie avec la forêt, que leurs manières de faire agriculture, pêche et cueillette sont raisonnées depuis des millénaires. Encore aujourd'hui, les terres où vivent les plus grandes diversités de végétaux et d'animaux sont celles qui sont habitées, et non celles que l'État a mises sous cloche dans des parcs nationaux, d'où furent trop souvent expulsées des populations originaires. En 1492, l'arrivée des Européens a provoqué maladies, massacres et esclavage de masse. Rappelons que dans cette Amérique, alors plus peuplée que l'Europe, la population chute de 95% en un siècle après Christophe Colomb. Dans le bassin amazonien, les groupes survivants ont dû simplifier leur mode de vie afin de préserver leur liberté. Les peuples qui aujourd'hui réclament la démarcation sont encore face à l'écocide que le conquérant occidental impose au continent américain depuis 500 ans. La démarcation est désormais l'outil juridique qui leur permet de faire valoir leurs droits devant un tribunal, puisque leur simple présence ne suffit pas. Or, le processus est complexe et différent pour chaque région. Il comprend études, visites de terrain, analyses juridiques, démarcation physique puis ratification présidentielle. Et il faut généralement passer par plusieurs entreprises, agences étatiques et ministères avant que le document n'arrive sur le bureau du président. Et même au sein de la fonction publique, nombre de personnes sont encore opposées aux démarcations. Alessandra Corap dit encore.
Ils disent que les peuples autochtones ont trop de terres. En réalité, les plus grandes terres appartiennent à l'agro-industrie, aux producteurs de soja, aux fazenderos, les grands propriétaires. Pas à nous. Ceux qui déforestent le plus, ce sont eux. Ils utilisent ces arguments comme si nous étions des pauvres qui possèdent trop de terres. Ce n'est pas vrai. Parler de démarcation, c'est parler de respect, de valorisation de notre culture, de notre fleuve, de la forêt. C'est ça qu'ils doivent comprendre.
En parallèle des 375 peuples originaires qui vivent encore dans les Amazonies, il y a aussi les Quilombolas, ces communautés de descendants d'esclaves évadés des plantations. Elles aussi portent des revendications foncières pour défendre les terres qu'elles occupent depuis plusieurs centaines d'années. C'est le cas de la communauté de Rio Tawa, qui vit à proximité de l'une des plus grandes raffineries d'aluminium au monde, et dont l'un des représentants dénonce « Nous nous sommes fait coloniser par les Portugais et ce colonialisme perdure avec les grandes entreprises qui veulent nous expulser de nos terres ». En 1977, la communauté perd en effet l'accès à ses terres et l'usine s'installe. La communauté décide finalement, en 2016, de revenir occuper la terre. Et en moins de 10 ans, elles ont déjà récupéré 1900 hectares. Sur le bord de l'Amazone et de ses affluents, il y a aussi de nombreuses autres communautés métissées. Les ribeirinhos qui vivent sur les berges du fleuve, ou les siringueiros qui sont issus de la culture du caoutchouc et du latex. En tout, on parle de territoires représentant plusieurs fois la France. Toutes ces terres sont habitées avec soin, et leurs habitantes ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Dans Mediapart, François-Michel Le Tourneau dit encore « Le problème se niche dans le processus économique qui amène à la déforestation. Pour un petit comme pour un gros propriétaire, déboiser pour faire pâturer des animaux permet de transformer un espace improductif en quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est un mécanisme pervers qu'il est urgent de briser. Ce n'est pas par haine des arbres que certains habitants de l'Amazonie la déboisent, mais parce que c'est le jeu du système économique mondial. Et ce sont ceux qui profitent de ce système qui se réunissent à la COP30, avec la garantie absolue que toutes les solutions proposées ne remettront jamais en cause le système lui-même. Voilà la trahison. C'est cette dénonciation notamment qui habite le village des peuples. Le 11 novembre, une première manifestation fait le siège de la COP. 300 personnes parviennent à envahir les premiers espaces avant d'être contenues par la sécurité. Menée par les communautés Munduruku, elle dénonce le projet de privatisation des fleuves signé par Lula et réclame la démarcation immédiate pour pouvoir se défendre face aux multinationales. 70 territoires sont prêts à être délimités, dit l'APIB, l'assaut en défense des peuples originaires, qui souhaite qu'un total de 107 soit délimité pendant la COP. Deux jours durant, les accès sont bloqués par les militants et les militantes, jusqu'à obtenir des promesses quant à l'accélération des processus de démarcation des territoires originaires. Dans Oui Demain, Alessandra Corap ajoute
« On doit faire ça pour attirer l'attention du monde entier. Quand on bloque la COP 30, personne n'entre, personne ne sort. Et alors toute la presse arrive et veut savoir ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Les pays qui sont présents dans cette COP envahissent nos territoires. Ils pensent qu'ils sauvent la planète. Mais non, ils contribuent à la déforestation en vérité. Ils achètent le soja qui vient de notre territoire. Ils achètent le maïs issu de la monoculture. Ils sont sourds et aveugles. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Pour qu'ils nous entendent, nous devons crier. Vous, peuple de France, avez-vous prêté attention à ce que les entreprises font aux peuples autochtones ? Ou bien vous ne regardez que l'emballage, bio, commerce équitable, alors qu'en réalité des autochtones perdent leurs terres, leurs fleuves, leur vie pour défendre cet environnement.
Le 15 novembre, des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues de Belém. C'est la première fois en 4 COP qu'une telle manifestation est autorisée. Les éditions précédentes, en Égypte, au Qatar et en Azerbaïdjan, s'étaient toutes déroulées dans des pays aux régimes autoritaires, sans société civile, sous la toute présence des entreprises extractivistes. La capitale du Pará resplendit alors de couleurs et d'initiatives populaires et artistiques qui montrent toute la vivacité du mouvement face à ces faiseurs de mort. Il y a aussi de nombreux drapeaux palestiniens et des représentants de la flottille de la liberté qui a tenté d'apporter des vivres à Gaza où le génocide se poursuit malgré le cessez-le-feu. On chante « L'Amazonie, la Palestine, pour le climat et contre le massacre ». S'opposer à l'industrie extractiviste et s'opposer à la guerre coloniale, c'est la même chose. Ici, les peuples réfléchissent pour tenter de limiter le désastre imposé par le capitalisme et préserver toutes les formes de vie. Caetano Scanavino, l'un des coordinateurs du Sommet des Peuples, estime « Quand on parle d'un autre mode de vie, on ne parle pas seulement de carbone, On parle de coopération plutôt que de compétition, de privilégier le collectif à l'individu. On parle de bonheur, non pas un bonheur issu de la consommation, mais un bonheur fondé sur le bien-être. Si nous détruisons ce mode de vie ancestral, que ce soit en Amazonie, en Afrique ou en Asie, nous nous détruirons nous-mêmes. Et à la fin de la COP, surprise et déception. Le texte de clôture ne mentionne pas la fin des énergies fossiles. Les 1600 lobbyistes n'y sont pas étrangers. Mais ce qui a aussi bloqué, c'est le renoncement des pays riches à venir financièrement en aide aux pays qui souffrent le plus du désastre climatique, et qui sont aussi ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. En revanche, 24 pays menés par la Colombie, dont l'Espagne et l'Australie, mais pas la France, ont signé une déclaration de Belém pour sortir des énergies fossiles. Largement passée sous les radars médiatiques, cette déclaration donnera lieu dès avril 2026 à Bogota à un sommet intergouvernemental pour l'élimination des énergies fossiles. Le président colombien a d'ailleurs dénoncé que l'accord final de la COP ne reconnaisse pas clairement que la cause de la crise climatique est l'utilisation des énergies fossiles par le capital. Le Village des Peuples, lui, émet une déclaration qui commence par ces mots.
La progression de l'extrême droite, du fascisme et de la guerre autour du monde exacerbe la crise climatique ainsi que l'exploitation de la nature et des peuples. Les pays du Nord global, les multinationales et la classe dirigeante portent la responsabilité principale de ces crises. Nous saluons la résistance et nous nous tenons solidaires avec tous les peuples qui sont cruellement attaqués et menacés par les forces armées de l'Empire des États-Unis, d'Israël et de leurs alliés en Europe.
Plus loin, la déclaration ajoute.
Il n'y a pas de vie sans la nature. Il n'y a pas de vie sans l'éthique et le soin. C'est pourquoi le féminisme est central dans notre projet politique. Notre vision du monde est guidée par l'internationalisme populaire, avec des échanges de savoir et de sagesse qui construisent des ponts solidaires, de résistance et de coopération entre nos peuples. Les vraies solutions émergent à travers ces échanges d'expériences développés dans nos territoires. Aussi, nous célébrons la naissance du mouvement international des peuples affectés par les barrages, les crimes sociaux environnementaux et la crise climatique.
Démontrant l'échec des innombrables réunions mondiales qui prétendaient acter des solutions aux désastres climatiques sans aborder ces causes structurelles, la déclaration affirme que le pouvoir politique a été partout capturé par le capital financier et subordonné à la poursuite du profit maximal. Elle propose alors la récupération des politiques publiques face à la privatisation et à la marchandisation, dénoncées comme contraires aux intérêts du peuple. Reprenant les exigences que nous avons déjà évoquées, elle pose l'impossibilité de privatiser l'air, les forêts, l'eau, la terre, les minéraux et les sources d'énergie pour la bonne raison que ce sont des biens communs de l'humanité. Pour trouver des solutions, dit-elle, reconnaissons la gestion populaire, la multidiversité des cultures et des visions du monde. En 14 points, le Village des Peuples établit enfin une série de revendications intersectionnelles qui met particulièrement l'accent sur la nécessité absolue de faire prendre en charge les conséquences de la crise climatique et le coût de la transition par les secteurs qui bénéficient le plus de ce modèle, les plus riches, les multinationales, notamment extractivistes, et toutes celles et ceux qui s'enrichissent sur les guerres.
Ce ne sont pas les peuples et les pays du Sud qui devraient continuer à payer des dettes aux puissances dominantes. Ce sont ces pays et leurs entreprises qui doivent commencer à rembourser la dette socio-environnementale accumulée au fil des siècles de pratiques impérialistes, colonialistes et racistes par l'appropriation des biens communs et à travers la violence imposée sur des millions de personnes qui ont été tuées et réduites en esclavage.
Et elle conclut.
Enfin, nous croyons qu'il est temps d'unir nos forces pour faire face à notre ennemi commun. Si l'organisation est forte, la lutte est forte. Pour cette raison, notre principale tâche politique est d'organiser les peuples de tous les pays et continents. Enracinons notre internationalisme dans chaque territoire. Et faisons de chaque territoire une tranchée dans la lutte internationale. Il est temps d'aller de l'avant, de manière plus organisée, indépendante et unifiée, pour accroître notre conscience, notre force et notre combativité. C'est la façon de résister et de gagner.
Et que surge a verdade em meio ao prejuízo. Manda quem pode, Odebrecht, quem tem juízo. Povo desunido numa guerra de partidos, Brasil colônia. Próximo capítulo aqui. Nunca houve independência e o povo pobre continua sendo escravo. O governo te rouba cada centavo e o plano da previdência é o sexagenário. Terra de Cabral, quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Meritocracia sem ensino fundamental, escravidão moderna era colonial.
C'était l'actu des oubliés. Merci de nous avoir écoutés. Au doublage, Vivi Isaé et Lune.
Eu já dei nome aos bois. Voto errado, então não reclama depois. Ora, pois, a corrente no.
Pour plus d'infos sur nos sources, rendez-vous sur notre audioblog L'Actu des Oubliés.
Recados, antes que eu me esqueça, eu não sou de esquerda e não voto no Bolsonaro. Desde muito tempo atrás, muito tempo atroz, quase desde Peruvais, nunca teve vez, nem voz das favelas aos faróis, oprimidos desde os portugueses e espanhóis, muitos contras, poucos prós.
En termes de musique, vous avez pu écouter Brisa Flau avec Fique Viva, Owera avec Sundaro Kaagiregua et en ce moment Oriente avec Brasil Colonia.
Mas em desigualdade ainda estamos entre os péssimos primeiros. Empréstimos em dinheiro e quem fez o rombo? Os filhos de Colombo, os filhos de Quilombo. Quem são os herdeiros?
Belle fin d'année, prenez soin de vous et on se retrouve en 2026 pour le prochain épisode.
Seguem padrões de cores, pensamentos francos e Marielles Franco atraem franco atiradores. Mais cansados de ouvir ordens dos mestres da colônia, os serviçais viraram mestres de cerimônia e trouxeram uma nova corrente de pensamento. Conhecimento é empoderamento contra os opressores. O grito de independência é declamado todo dia nos saraus de poesia, mas nessa fotografia não vemos um homem no cavalo branco, vemos mulheres e jovens negros da periferia escrevendo a própria carta de alforria. Educação é a nova abolição da escravatura e cada verso no papel a certeza que a cultura liberta mais que a assinatura da princesa Isabel. Sush!
Lágrimas de sangue escorrem dos filhos desse solo e irrigam esse solo. Crianças pedem cole, a pátria mãe se isola, que os órfãos chorem longe. As margens do que importa, o poder, a preferência, que Deus me ajude, Lázaro. Pois eu não sou politizado, a esquerda e a direita são duas asas do mesmo pássaro.